On rembobine avec Joris sur RCN.
Et bonsoir à tous et bienvenue dans On rembobine, votre émission musicale les mercredis à 21h sur RCN 90.7, on le rappelle. L'émission musicale dans laquelle on remonte le temps de façon musicale grâce à de magnifiques cassettes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un groupe, mais on va te dire après, d'accord ? Donc, allez. Tout d'abord, je suis pas tout seul, parce que comme d'habitude, sixième émission, vous devrez avoir l'habitude. Je suis avec Pablo, comment ça va ?
Eh bah écoute, la forme, et toi, mon petit Joris ?
Ça va très 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 bien. Et aussi, on a un invité que je vais présenter tout de suite, et qui va aussi se présenter. Je suis avec Sam, comment ça va ?
Eh bah ça va super, je suis très content de venir parler de ce groupe, Encore Mystère.
Oui. Ah, c'est bien, il a pas fait la faute. Parce qu'une fois, on avait invité quelqu'un, il avait spoilé l'artiste.
Non, j'ai déjà les us et coutumes.
Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie en général, Sam ?
Qui es-tu ?
Alors, moi, c'est Sam. Je suis étudiant à la fac de lettres à Nancy. J'étudie l'anglais. Je suis en troisième année, donc bientôt la fin.
Oui.
À part ça, je fais d'autres petits trucs à côté, notamment, donc je fais un peu des films avec des copains. On a monté une association. C'est la Normal Prod. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram,
ouais,
notamment.
Bien sûr.
Voilà, vous cherchez Normal Prod, ça devrait être le premier qui tombe. On est sur YouTube aussi. Voilà, on fait des petits films rigolos de temps en temps. Et à part ça aussi, surtout, je fais un peu de musique avec des copains, y compris notre Joris international. voilà, je fais de la guitare et de la basse.
Oui. Et donc, tu aimes quoi en général comme musique, comme style, comme groupe
La réponse classique, c'est que ça va, c'est à peu près tout.
Oui.
Ça va à la fois du punk à la comédie musicale et du métal à la variété française. Et ça va se refléter aussi dans je pense mes deux groupes préférés qui sont Idols, le groupe de punk de Bristol, si je dis pas de bêtises en ce moment, et le deuxième qui est celui très différent dont on va parler aujourd'hui, si j'ai bien, enfin le premier
qui est
Pink Floyd.
Tu peux le dire. Oui,
ah, super.
Et oui,
parce
que
j'ai eu cet honneur.
J'ai la chance dans les 180 cassettes qu'on a retrouvées d'avoir une cassette qui parle de Pink Floyd. Alors, on va s'intéresser à ce petit groupe, entre guillemets. Hein.
Ce monument.
Vraiment, vraiment. Donc, Pink Floyd, c'est quoi ? C'est un groupe britannique. Tu me diras si j'ai faux. Hein.
Non, jusque-là, tout va bien.
Originaire de Londres.
Oui.
Okay. Il a été fondé en 1965. Il est connu pour beaucoup de choses, que ce soit dans le rock expérimental, progressif, des choses vraiment planantes, ou même dans les textes, donc des satires, des choses très philosophiques. Et c'est aussi un groupe qui a vendu, on peut le dire, plus de 360 millions d'albums à travers le monde.
Ça va,
pas mal.
Constitué à la base de Syd Barrett à la guitare et au chant, Roger Waters à la basse. Et aussi au chant, parce que tout le monde chante un peu, j'ai l'impression.
Oui, oui,
Richard Wright bon au chanteur. Clavier et au chant, Nick Mason à la batterie. Et bien sûr, après, vers 68, Syd Barrett, qui, pour des problèmes personnels, mais aussi avec le groupe, va être remplacé par David Gilmour, hein, le guitariste qu'on connaît tous. Et donc, on va surtout s'intéresser aujourd'hui, même si on pourrait parler de Pink Floyd pendant des heures, parce qu'ils ont sorti énormément d'albums, on va s'intéresser à leur, entre guillemets, apogée, avec l'album The Dark Side of the Moon, pour commencer, sorti en 73. Hein. Tout le monde connaît cet album. C'est, je crois... Il
top 2
Top 3, je crois.
3
c'est le troisième album le plus vendu.
Il a longtemps été top 2, je crois, et il a été déclassé un peu après.
Il y a Thriller, Back in Black, je crois,
voilà,
et là,
ça.
Du coup, c'est The Dark Side
ça.
Of the Moon. Donc, c'est quand même un sacré album. Tout le monde connaît la fameuse pochette, ou même... C'est vraiment cette ambiance planante qu'il y a dans The Dark Side of the Moon. Tous les morceaux suivent un peu. On vous invite, parce que là, on va écouter les morceaux un peu séparément, mais à écouter l'album dans son ensemble, parce que c'est vraiment une œuvre à s'écouter par entière.
Les transitions.
Vraiment. Et donc, cet album qui, du coup, est vraiment historique, commence avec une musique, voire même deux. Donc, puisqu'on va écouter Speak to Me, suivi de Breathe. Donc, ça commence vraiment, c'est un petit battement de cœur, vraiment léger. Et petit à petit, ça va exploser, mais la meilleure façon de vous le montrer, c'est d'écouter.
On rembobine.
Thank you.
Don't leave me. Look around. Choose your own ground. How you live, how you fly. Smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, dumps it down, it's time to dig another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards.
La chanson qui s'arrête net, mais parce qu'elle s'enchaîne bien sûr avec d'autres morceaux qu'on vous invite à aller écouter. C'était Speak to Me suivi de Breathe. Donc vraiment, Speak to Me, ça introduit un peu l'album hein, avec des thèmes. On peut reconnaître des petits Money par là et tout. Donc c'est plutôt sympa. Et après, on a cette montée en puissance avec, avec Breathe. Et j'avais une question pour vous deux. Comment vous avez découvert un peu, du coup, justement, Pink Floyd, si vous vous en souvenez? Enfin, comment c'est arrivé? Est-ce que Pablo, c'est encore ton père, peut-être?
À ton avis.
Et aussi, autre question, la question de la question, qu'est-ce qui vous a attiré dans le son Pink Floyd? Pablo, c'est à vous qui veux commencer.
Ouais, je vais commencer. Eh bien, t'as pointé la réponse, parce que bah, c'est mon père, évidemment.
Mais non.
C'était, je sais plus, alors je réfléchis, je suis en train d'essayer de trouver le son en particulier, mais il avait bah, plusieurs musiques des Pink Floyd dans sa playlist, qui tournait depuis que j'étais petit. Et en vrai, c'était vraiment le moment où j'ai plongé un peu dans le monde-là, c'était quand j'ai commencé la guitare, et que j'ai joué Another Brick in the Wall.
Ok.
Et que j'ai appris le solo, et que évidemment, bah, voilà, tu prends ta claque, t'es là en mode ah, ok, donc c'est ça, un mec talentueux. Et,
ouais, David Gilmour, quand même.
Bah ouais, vraiment, ouais,
grand,
solo,
guitariste.
Grand guitariste, sixième, je crois. Classé,
ah ouais, tu sors le classement carrément.
Bah non, mais je crois que ouais, il a été.
je l'ai plus
classé. Par ce guitariste, il a été classé sixième meilleur mondial, voilà. Et puis ouais, je crois que c'était à partir de ça. Et sinon, c'est un peu plus récemment, à partir du lycée, où j'ai commencé à vraiment plonger moi-même dans les projets et à écouter un peu bah, justement The Dark Side of the Moon en entier. J'ai commencé à plonger dans The Wall, un peu tout ça. Et c'est à peu près comme ça que je me suis mis au Pink Floyd, quoi. Et puis, qu'est-ce qui m'a plu? Bah, juste. C'est incroyable, l'ambiance.
C'est ça. En fait, t'as dit le mot que je voulais qu'on dise. C'est vraiment ambiance.
C'est vraiment.
En fait, c'est la comment on construit un morceau, parce que souvent on peut reprocher à Pink Floyd que les morceaux soient longs, mais en fait, moi, je trouve pas que ça soit un problème.
Oui, bah, ça passe très vite, mais en fait.
Bah, c'est ça.
C'est, et puis c'est cette construction qui est nécessaire pour mener.
C'est
ça. Voilà.
Ça va être comme un film. En fait, la durée est pas si importante. C'est le rythme et la manière dont les différents éléments vont être disposés, comment ils se répondent et. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans les, dans les morceaux Pink Floyd, surtout les plus longs, parce que là, on va parler un peu de Shine On You Chris Diamond, mais il y a aussi sur Metal, il y a Echoes, qui dure 23 minutes, et puis sur Atom Heart Mother, il y a, la première grande composition de 23 minutes aussi, qu'ils ont fait.
Et toi, du coup, comment t'es tombé dedans un peu, Sam?
Alors, moi, je pense que mon histoire avec Pink Floyd commence dans un Leclerc.
Ok.
Ouais, parce que je viens pas d'une famille aficionados de Pink Floyd, on va dire. Il connaissait comme tout le monde de cette génération, je pense, mais sans plus, ça n'a jamais vraiment été une passion. Et comme tout le monde, moi, je connaissais Another Brick in the Wall, peut-être un autre, mais je ne suis même pas sûr. Et un jour, j'arrive au Leclerc et je vois ce t-shirt Pink Floyd très très beau. Et je me dis, allez, je me le prends. En plus, je commence à écouter de la musique un peu des années 70-80. C'était vraiment ma découverte de cette époque-là. Et je me le prends alors que je connaissais vraiment un morceau. Et au bout d'un moment, je me suis quand même dit, c'est bête, j'ai ce t-shirt, je le mets tout le temps, je l'adore.
Tu connais pas.
Voilà.
Il faudrait peut-être
commencer à regarder un peu en détail, surtout que c'était vraiment, je me disais, peut-être qu'écouter des albums entiers, c'est intéressant pour comprendre un artiste, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait. Et alors, j'ai aucune idée du premier que j'ai écouté, mais le fait est que j'ai écouté, je pense, tout le run des années 70, un peu là où le moment où ils ont enchaîné les très très grands albums. Après, j'ai fait la période avant, celle des années 60, plus psychédélique, et je me suis un peu arrêté après The Wall. J'ai dû réécouter The Division Bell.
Ok.
Dans les derniers, les plus récents, mais à part ça, c'est à peu près tout. Du coup, ouais, c'est à ce moment-là, vraiment mes années collège, peut-être tout début lycée, que vraiment je suis tombé dans Pink Floyd à fond, quoi.
Bah, moi, c'est à peu près pareil. Et c'était avec, du coup, comme tout le monde, The Wall.
Toi aussi, t'as acheté le t-shirt, c'est ça?
Non, mais j'ai acheté. Mais en fait, c'est, The Wall, ça m'a donné envie de découvrir plus. Et du coup, je suis tombé sur un vinyle, et le vinyle de The Dark Side of the Moon,
okay,
qui m'a un peu attiré l'œil, on va pas se mentir. Un peu comme le t-shirt, quoi. Et du coup, après, bah, j'ai écouté, et voilà, j'ai pris ma grosse claque. Et surtout avec un morceau en particulier qu'on va pouvoir écouter en plus.
Tiens,
c'est The Great Geek in the Sky. T'as vu, transition parfaite. Un morceau incroyable. Oui. Il faut le dire, un morceau qui ne serait rien sans une personne. Est-ce que tu as le nom, Sam?
Je n'ai pas le nom, mais j'ai l'anecdote.
C'est Clare Torrey. Clare Torrey, qui du coup est la chanteuse dans The Great Geek in the Sky, qui en fait, ils l'ont payé pas trop cher en plus.
Non, et je crois même que l'histoire, c'est qu'elle traînait un peu au studio parce qu'elle devait leur faire des voix sur d'autres morceaux, notamment sur Eclipse, on la réentend un peu.
Mm-hmm.
Ils avaient cette partition, ils savaient pas vraiment quoi en faire, ils lui ont donné, et ils lui ont dit utilise ta voix comme si c'était un instrument, et à partir de là, elle a fait l'enregistrement de la partie chantée sur... Ouais. Sur The Great Geek in the Sky, et ça a donné le morceau qu'on connaît.
Et paf, ça fait un banger.
Ouais, exactement.
Ouais. Wow.
Qu'on va pouvoir écouter.
Pas si dur finalement de faire un chef d'œuvre.
Ah ouais, vraiment. On va l'écouter.
On rembobine.
We'll be right back.
Avec Joris, on rembobine sur RCN.
The Great Gig in the Sky, toujours dans l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, sorti en 1973, morceau fabuleux grâce notamment à la voix de Clare Torrey. Et on en parlait un peu en hors antenne, bah oui, parce que, chers auditeurs, on parle pendant qu'elle est
et
musique.
Encore, je voulais faire une remarque par rapport
oui,
à ça. Ça me fait rire parce que d'habitude, dans les autres émissions, justement, en hors antenne, on discute pas mal. C'est alors parce que là, quand on parle des Pink Floyd, on parle pas tant que ça.
Ouais, on écoute
on
beaucoup.
Est plus,
mais parce que en fait, c'est tellement magique
ouais.
Que, enfin, je sais pas. Moi, j'ai envie d'écouter.
T'as pas
juste
envie de
laisser
casser
porter.
Le
ouais. C'est ça. Ouais. Mmh. Tu fermes les yeux et tu profites.
C'est ça. Et tu t'en vas.
Et je vous conseille d'ailleurs, chers auditeurs, de le faire.
Ah, mais faites-le. Je vous jure, ça sauve.
Et donc, oui, à l'introduction de ce morceau, bien sûr, il y a aussi donc les voix d'un concierge qui était le concierge du studio Abbey Road. On peut dire son prénom d'ailleurs. Il s'appelle Jerry O'Briscoll. On le salue.
C'est dédicace, mec.
Qui se disait, du coup, je vous fais la traduction, hein, je n'ai pas peur de mourir n'importe quand, ça me dérange pas. De toute façon, il faut bien mourir un jour. Et après, on a cette montée de petit piano et ce cri fabuleux. Vraiment magnifique comme morceau.
Absolument, absolument. Et ce que je trouve aussi magnifique, c'est la deuxième moitié du morceau. On a un peu tendance à l'oublier, je trouve, après le cri et
c'est
l'intensité.
Vrai. La redescente.
Il y a quand même, voilà, il y a une longue redescente, un long moment d'apaisement et de calme. Et sur la thématique de la mort, je trouve que c'est assez, assez puissant sur ce que raconte Pink Floyd dans cet album par rapport à la mort et la fin. Vraiment au sens de finité, quoi. On arrête d'être, on arrête d'exister et qui se retrouve un peu dans Wish You Were Here. Après, peut-être qu'on pourra en reparler.
Bien sûr.
Mais, et cette approche-là que je trouve très intéressante.
Et surtout, c'est que dans ce morceau, enfin, il parle un peu aussi de la mort et tout, mais pas que dans les paroles, puisque par exemple, dans ce morceau, il n'y a pas vraiment de paroles, en fait.
Ouais, ouais.
Donc c'est vraiment musicalement que vraiment on
elle
ressent les
quelque
émotions,
part, mais
vraiment.
Sans dire un mot, quoi. Ouais. C'est...
Ça, on comprend tout, juste avec un témoignage et des notes, enfin du chant sans mots, quoi. Et je trouve ça assez magique.
C'est parfait. Et on va pouvoir, du coup, parler de Money. Aucune transition, mais on va parler de Money.
Parce après que, la mort, du coup, l'argent.
Ouais, c'est ça. Donc on a écouté les deux premiers morceaux qui ouvrent l'album, The Great Gig in the Sky qui ferme la face A, et en fait donc on a Money qui lui ouvre la face B,
tout à fait.
Et qui est en fait assez donc qui commence bien sûr avec des bruitages, hein, parce que Pink Floyd adore créer une ambiance aussi grâce au bruitage. Et aussi ce morceau, il a une rythmique et surtout une métrique.
Allez, tu nous en parles plus en détail.
Assez intéressante, parce que bon, du coup, grossièrement, pour résumer, le morceau est en 7-4. Mais c'est plus précis que ça, on va pas vous embêter les non-musiciens, c'est du 21 sur 8, mais bon, bref, c'est du 7-4. Et du coup, c'est une rythmique assez intéressante pour un morceau, sachant qu'aussi, c'est l'un des morceaux qui est allé dans les hit parades, donc qui a vraiment été très connu du groupe Pink Floyd, Money. Et c'est l'un des seuls morceaux avec All You Need Is Love des Beatles et Salisbury Hill qui est en 7-4. Et qui a atteint les hit parades, parce que on pourrait penser que comme c'est un rythme assez intéressant, que on trouve ça assez bizarre comme morceau, quoi. Enfin, je sais pas ce que...
Bah, c'est ça que je trouve très intéressant avec Dark Side of the Moon, c'est que tu regardes sur le papier, c'est un album de jazz expérimental,
c'est vrai,
prog rock, tous les morceaux sont liés, c'est un album concept qui a volonté de parler de la mort, de la vie, des traumas, de l'argent, de tout ce que tu veux. Et pourtant, ça a eu un succès incroyable.
Ah, mais
virtuellement.
Alors que dans le contexte à l'époque, pas du tout.
Virtuellement, toutes les familles partout avaient un vinyle de Pink Floyd en 73, quasiment. Et tu te dis, pour qu'un album avec un tel projet, un tel bagage, arrive à ce stade-là de popularité, il y a quelque chose d'en plus qui se passe, un truc en plus. Il y a un truc en plus dans ce truc qui a su parler, je pense, à plein de gens.
Ouais, bah, surtout qu'en plus, ils ne pensaient pas que ça serait un tel succès et que même ils comprennent un peu, toujours pas forcément, pourquoi c'est... Enfin, on le sait un peu, que c'est un succès comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant pour ce type d'album qui est tellement éclectique qu'il y a eu... Enfin, c'est l'album le plus plus connu, je pense.
C'est ça, bah, parce qu'on parlait vraiment du top 3 des albums les plus vendus. Ouais. Les deux autres, c'est Thriller et Back in Black.
Ouais.
C'est quand même de la pop exceptionnelle, hein, mais de la pop
ouais.
et du rock de stade.
Ouais,
peut-être plus simple à comprendre.
Voilà, c'est des choses beaucoup plus populaires. Et je dis le mot populaire sans aucun jugement.
Bien sûr.
Aucun aspect négatif, mais c'est plus compréhensible dans leur succès et c'est moins dur à expliquer, je trouve.
Et ben on va pouvoir conclure cet album avec Money et après on va passer à autre chose.
En rembobine.
was in the right.
Money de Pink Floyd sur l'album The Dark Side of the Moon sorti en 73. Parfait pour finir cette phase A de notre émission. Mais avant de passer à la phase B, bien sûr, toujours hein, le petit jeu, les petites anecdotes, parce que ça fait plaisir. Alors justement, on va pouvoir comme ça, j'ai une petite question par rapport à The Dark Side of the Moon, puisqu'on parlait de sa popularité, voilà. Est-ce que vous savez, puisque c'est un véritable succès, combien de personnes possèdent une pochette de l'album sur Terre?
Combien
que ce soit la pochette, que ce soit, je sais pas, sous forme de t-shirt, un poster ou je sais pas quoi. Sur Terre, il y a un humain sur qui possède la pochette de The Dark Side of the Moon, ce qui est un truc de taré.
Ça doit être absolument énorme parce que déjà, t'as tous les fans, tous les gens qui juste ont acheté le logo parce qu'ils le trouvaient
parce
beau.
Parce que la pop culture.
Voilà.
Le plus proche, un humain sur combien? Vas-y, Pablo.
Bah, en vrai, je sais pas, 100 millions.
Un humain sur 100 millions? Ok.
Waouh, ah ouais. Un humain sur 100 millions, ouais, un humain sur...
Ah oui, ok, tu parles en... Ah oui, ok.
Non, moi je dirais...
Non, un humain sur, sur 10, hein.
Un humain sur 10, ok.
Moi j'irais encore plus loin, je dirais un humain sur 5.
Ah okay.
Bah c'est une personne sur 12, ce qui est quand même déjà énorme.
What the fuck. Ah,
c'est déjà énorme, donc une personne sur 12 possède une pochette de cet album sur Terre.
C'est abusé.
C'est incroyable.
Je pense que ça va. Quand t'as passé, quand t'as passé ce stade, tu peux te dire là, ça va, ce que je fais c'est pas mal. Ouais.
On parlait de David Gilmour, il a une merveilleuse guitare qui s'appelle la Black Strat, qui est utilisée pour justement aussi cet album. Elle a été vendue aux enchères pour combien? Le juste prix? Pour combien alors?
Ça parle en millions ou en milliers?
En millions, et ça fait, c'est l'une des ventes aux enchères les plus chères de l'histoire de la musique d'ailleurs.
Bah, ça doit être un 10 millions je pense.
Ok, ouais, Sam
Ouais, allez, juste pour aller plus loin, je dirais 30-35.
Ok, 21 millions.
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
Ouais, non, mais c'est... Wow.
Ouais, c'est complètement aberrant.
Cela dit, si je les avais, je les mettrais, je pense.
Il faut les avoir. Je vais juste parler aussi d'un un concert, parce qu'en fait, Pink Floyd, ils mettent vraiment un point d'honneur sur leur son. Vraiment la pureté du son, comment le son est fait. Ils font vraiment un travail dessus. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait un concert à Pompéi. En 71, bien sûr, que,
magnifique.
Juste comme ça, je vous balance l'anecdote, je vous invite à aller le regarder.
Il est disponible sur YouTube en deux vidéos.
Incroyable.
Mais il est disponible en entier sur YouTube.
Vraiment incroyable. Et là, vous comprendrez vraiment ce que c'est le son,
c'est
le team de Pink Floyd.
Et ce qui est intéressant, c'est que aussi ce concert-là, c'est le minimalisme à son paroxysme, il n'y a même pas de public.
C'est ça, c'est vide.
C'est ça, là où les autres concerts de Pink Floyd, surtout plus tard avec l'époque The Wall, aussi Animals aussi, où ils amenaient le ballon cochon avec eux, c'était beaucoup plus maximaliste et il y avait une volonté vraiment de spectacle. Là c'est tout l'inverse et c'est très intéressant de regarder ça.
Et bah allez-y, voilà, c'est le seul conseil. Et on va pouvoir passer du coup à l'album Wish You Were Here, sorti en 75, donc 2 ans après, donc les mecs enchaîne les projets de fou.
Mais elle est intéressante aussi cette proximité dans les thématiques.
Oui, vraiment. Et c'est un peu comme si, même si c'est des albums différents, ça suivait, il y avait un peu une continuité.
Ouais, bah, complètement. Wish You Were Here répond à beaucoup de niveaux à The Dark Side of the Moon et l'écho qu'a eu Dark Side of the Moon dans la société. Ouais.
Et du coup, ça sert aussi à parler de sujets qui sont importants pour le groupe, notamment par rapport à Syd Barrett, puisque Syd Barrett, ça faisait du coup 7 ans qu'il était parti quand ils ont fait cet album-là.
Parti du groupe, et il était encore en vie.
Oui. Parti du groupe, faut le préciser. Puisqu'il est mort qu'en 2006. Donc ça va. Enfin, ça va, c'est plus récent, on va dire. Mais c'est vraiment, en fait, c'est aussi l'état dans lequel il était qui a impacté le groupe, parce qu'il était vraiment pas en bonne santé. Il le reconnaissait pas. Et c'est justement cette thématique un peu aussi de l'absence qu'ils utilisent beaucoup dans cet album, et notamment dans le morceau Shine On You Crazy Diamond, qui ouvre l'album. C'est une chanson en deux parties, techniquement. La première partie, donc partie 1 à 5, qui ouvre l'album, et la partie 6 à 9 qui le ferme, c'est leur morceau le plus long, donc qui fait 25, 30 ou 26. Bon, c'est assez long. Et on va pouvoir écouter, du coup, justement, cette première partie, et je veux qu'on l'écoute en entier.
En entier, ouais.
Donc ça va faire 13 minutes, mais...
Accrochez-vous.
Chers auditeurs.
Mais même pas, il y a même pas besoin de s'accrocher en plus.
Installez-vous, vous fermez les yeux, vous profitez, vous kiffez, parce que c'est ça Pink Floyd, c'est que du kiff.
Il faut se laisser transporter.
Voilà, vous vous laissez aller, et c'est parti, nous, on rembobine. Thank you.
Shine on, you crazy diamond.
On rembobine avec Joris jusqu'à 22h sur RCN.
Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Les 13 minutes sont déjà passées. C'était Shine On You, Crazy Diamond, la partie 1 à 5, bien sûr. Donc la première partie du morceau divisée en deux, puisque c'est un morceau de 26 minutes. Incroyable. Oui. Trop de choses à dire. La guitare, le saxophone, l'ambiance, c'est un voyage. On passe partout. C'est incroyable. Un Pablo.
Ouais, bah non, mais à chaque fois que j'écoute ce son, pourtant je l'ai écouté, hein. À chaque fois c'est la même chose en plus. C'est ça qui me fascine, c'est que tout est bien trouvé, on passe partout et ils gardent l'attention tout le long en fait. Oui. C'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas un moment dans le son où tu dis bon, on passe à autre chose là. Tu vois, genre tu restes dedans, ils te font. Puis dès qu'ils ont exploité un peu trop un moment, et bah hop, on passe à l'autre et puis on va là où on veut t'emmener. Et ouais, pour moi c'est super bien fait et c'est un régal à chaque fois quoi.
Tu te laisses guider.
On s'envole,
C'est ça, y a
juste tu savoures et tu tais, quoi. Non, mais tu peux pas faire autrement.
Ouais, parce que du coup, l'album qui aussi reprend des thèmes, même si là, il n'y avait pas beaucoup de paroles, c'est toujours ça dans Pink Floyd, c'est aussi dans la musique, ça se ressent. Donc, il y a beaucoup de critiques de l'industrie musicale, l'aliénation, mais c'est aussi un hommage aussi à Syd Barrett, qui a quitté le groupe pour des troubles psychique malheureusement
dû à l'utilisation de certaines substances
et en plus il leur a rendu visite et ils étaient accablés par la dégénérence de sa santé mentale
ils l'ont pas reconnu. L'anecdote veut qu'un jour Syd soit arrivé au studio où les Pink Floyd ont enregistré cet album et il leur parle un peu, enfin discute, les mecs se disent c'est juste quelqu'un qui est venu, qui connaissait, je sais pas, l'ingé son, tout ça, et quand ce mec part, ils apprennent qu'en fait c'était Syd Barrett, leur ancien chanteur guitariste.
C'est fou.
Mais ils l'ont même pas reconnu. Il était chauve,
Son sourcil, il a pris énormément obèse, de poids. Carrément.
Attends, sérieux, j'avais pas ça.
C'est très terrible.
Et c'est aussi pour ça qu'ils ont fait la musique Wish You Were Here.
Exactement.
Et oui, donc cette musique qui se passe juste après Have a Cigar. Oui. Donc c'est une espèce de transition avec des petits bruits de radio, donc c'est plutôt sympa. Ou justement, du coup, c'est des bruits de la radio de la voiture de David Gilmour. Donc c'est vraiment, il change un peu, on passe par plein de trucs, on passe par des voix, on a la symphonie numéro 4 de Tchaïkovski. Et après, du coup, on a cette fameuse intro de Wish You Were Here à la guitare 12 cordes que tout le monde connaît. Et donc, c'est vraiment, ça c'est un hommage à Syd Barrett, c'est vraiment... j'aurais aimé que tu sois là, ou même le changement de la personne, le fait qu'on la reconnaisse plus. Donc c'est un magnifique morceau que je pense qu'on va pouvoir écouter.
Bah allons-y, on rembobine, hein.
C'est parti.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the wall for a lead?
Wish You Were Here sur l'album du même nom, bien sûr, sorti en 75. Album qui, d'ailleurs, n'a pas reçu un très bon succès, sauf de la part des critiques. Hein. Et c'est l'album préféré de Gilmour et de Wyatt.
Et le mien.
Et le, mien. Et le tien,
ouais,
ok.
Absolument.
Ah, incroyable. Bien. Et bah, très content d'avoir fini sur ça. C'est dommage, c'est déjà la fin. On peut, bien
c'est...
sûr.
Oui, oui.
Bah, si, je vois qu'on arrive sur la fin. Moi, je voulais surtout dire un truc sur Pink Floyd en général. Ce qui était super dans cette émission, c'est qu'on a, on a vraiment revu un peu, réécouté certains des morceaux les plus accessibles, on va
bien
dire.
Sûr.
Et ce qui est dommage avec Pink Floyd, dans ce cas, la manière dont les gens pensent de Pink Floyd, mm-hmm. c'est qu'il y a souvent cette idée d'intellectualisante derrière, très autorisante, très progressive. Du coup, c'est pas accessible et tout. Mm-hmm. C'est entièrement faux. C'est très Pink Floyd, on l'a vu, on l'a dit,
bien
c'est
sûr.
Quelque chose de très accessible. Il suffit de s'y mettre, en fait, faut un peu briser cette image très inaccessible et élitiste, en fait. Et il y a vraiment des choses qui peuvent vraiment plaire au grand public. En 73, il y a une raison pour laquelle Dark Side of the Moon c'est devenu assez populaire. Donc je pense que
les sujets ils touchent tout le monde.
C'est ça,
ils
les
sont
sujets, les morceaux sont super.
Musicalement, ça peut attirer tout le monde.
Bien sûr. Enfin, je veux dire, faut vraiment s'y mettre. Soyez curieux, juste mettez-vous un jour un album. Au mieux, vous découvrirez un artiste que vous allez adorer, et au pire, vous aurez toujours une super bande son pour vos trajets de nuit.
C'est ça.
Dès que vous prendrez la route
dans la voiture, hop,
c'est
là, ça part. Non, très beau message,
très
et
promo,
c'est vraiment, c'est totalement vrai en fait.
Ouais, c'est ça. Et en vrai, ça marche pour les Pink Floyd comme pour tout le monde en réalité.
C'est
aussi,
ça. Intéressez-vous à la musique.
Ouais.
Et on est là un peu aussi pour ça, cette
grave.
Émission. Et c'est pour ça qu'aussi Pink Floyd, on pourrait en parler pendant des heures, et bien sûr qu'on refera d'autres émissions.
Let's go, il l'a dit.
On fera aussi sur The Wall et même sur d'autres albums qui sont pas forcément les plus connus de Pink Floyd, mais qui sont tout aussi intéressants.
Carrément.
Et aussi, on parlera quand on fera une émission juste sur The Wall, parce que on peut faire une émission juste sur cet album parce que c'est un concept, c'est aussi un film qu'on vous invite à aller voir si
et
vous êtes intéressé par
le
cinéma
aussi.
Donc on en reparlera forcément. En tout cas, merci Pablo, merci Sam pour cette émission.
Merci
c'était
à vous
super.
Deux.
On se retrouve la semaine prochaine, Pablo, pour
carrément.
Une petite compilation, la troisième.
Carrément, j'ai trop hâte.
Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Bisous.
Bisous tout le monde.
Salut.